חופשת משפטים. On va aller un peu plus vite sur le début. Ça commence évidemment Ve'eler Mishpatim avec un vav de liaison qui nous dit donc, comme le dit Rashi, que la smichut, la juxtaposition de la paracha de Mishpatim, c'est-à-dire la paracha qui contient un très grand nombre de dinim, de halachot, si vous voulez. Et cette paracha est donc juxtaposée à la dernière chose dont on avait parlé dans Parashat Yitro, c'est-à-dire, on parlait du Mizbeach. On avait vu que dans le Mizbeach, on devait pas le construire avec le fer. On devait veiller à ne pas accéder à ce Mizbeach avec des escaliers, des marches, mais plutôt avec une rampe. Donc, la juxtaposition, Rashi dit, l'omar lach, shetasim sanedrin, etzel amisber, amigdash. C'est-à-dire que tu installes le sanedrin auprès du migdash. C'était, bon, vous le savez probablement, il y avait une des chambres de l'édifice migdash, qui était la chambre où siégeait le Sanhédrin. Le Sanhédrin était vraiment à côté de, enfin, c'est une partie intégrante quasiment du Mikdash et même très proche du Mizbeach. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce qu'on veut indiquer? C'est qu'on ne peut pas scinder les deux. Le Mikdash, ça représente la Avoda. Ça représentait les korbanot, théoriquement, de maintenant, pour nous, ça représente la tfila, la prière, d'un côté, et de l'autre côté, on a les dinim, on a de l'autre côté les relations entre les hommes, et la dame, le chavero, et on nous enseigne ici qu'on ne peut pas scinder le vertical et l'horizontal. On peut pas se contenter d'être un bon juif qui va régulièrement à la prière, qui fait les gestes du rituel, si on peut parler comme ça, mais qui, dans les relations interhumaines, se conduit mal, c'est-à-dire ne respecte pas les dinim. On va voir, les dinim sont très très précis et ils encadrent énormément la vie de les quotidienne, en fait, que ça soit professionnel ou de voisinage, etc. Donc, il est hors de question de privilégier un côté ou l'autre. On ne peut pas non plus dire, je m'occupe simplement d'avoir de bonnes relations et de respecter mon prochain, mais les choses comme la prière ou tout ce qui est rituel, etc., ça ne m'intéresse pas. C'est inséparable dans la Torah. Le Maharal dit la même chose, si vous voulez, dit cette idée un peu d'une autre manière. Il dit que le Beit HaMikdash doit être il est le centre du monde. Mais il est le centre du monde parce qu'il relie le monde à Hachem. Il est le centre au sens où il est le cœur du monde, en fait. Mais, dit-il, si ce Beit HaMikdash n'est pas aussi le centre des relations entre les humains, donc si c'est pas que les relations entre les êtres humains, entre les personnes, n'est pas gouvernée aussi par le Beit HaMikdash, alors il n'est pas le centre du monde parce que son action n'est pas complète. Donc, c'est une autre façon de dire qu'effectivement, on a impérativement besoin des deux. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Ensuite, dans ce premier verset, qui dit donc, Ve'ele ha-mishpatim, voici les mishpatim, voici les dinim, Asher tassim lifnehem, que tu poseras, tu exposeras lifnehem devant eux. Alors, il faut donc poser ces mishpatim devant eux. Alors, vous connaissez probablement déjà le fameux Rashi. Le Rashi était assez présente les choses un peu de façon un peu étrange, parce que Hachem dit ici avec ce verset, il dit à mon cher Rabbeinu, surtout ne t'imagine pas que tu peux te contenter de donner aux Bnei Israël les lois. Tu vas pas leur donner le dalos ou le code civil ou le code pénal, etc. Tu es dans l'obligation de présenter les lois avec tout le chemin qui a mené à l'élaboration de ces lois-là. Donc, tout le limoud qui nous a amené à ces lois-là. C'est-à-dire, tu dois impérativement donner les choses sous forme. Tu peux pas leur donner les choses des principes simplement et débrouillez-vous ensuite pour l'application. Tu es obligé de leur donner comme un shulchan aruch, comme une table parfaitement mise de telle sorte qu'on peut venir et consommer tout de suite, c'est-à-dire dans tous les détails. Ils sont pas obligés, n'ayant que des principes, d'aller essayer de comprendre comment les situations concrètes se traitent avec ces principes. Non, tu dois aller jusqu'au bout, d'une part, et d'autre part, tu dois leur donner ce qu'on appelle les ta'amim, qu'on peut appeler les raisons de ces mitzvot, dans toute la mesure du possible, en faisant attention, enfin, faisant remarquer que le mot ta'amim, on peut dire que ce sont les raisons, ce sont aussi les signes de cantillation, donc quelque part, on signifie aussi, on te dit comment il faut lire le texte, quel rythme, quelle coupure, quel mot il faut associer, etc., comment couper les versets, etc. Tout ça, c'est aussi donné avec les ta'amim, mais aussi le mot ta'am, qui veut dire le goût, d'une certaine manière, de la même, ça vient dire ici que de même qu'on ne peut pas manger des choses qui n'ont absolument aucun ta'am, bien, on ne peut pas non plus manger la halakha si elle n'a pas de ta'am. C'est-à-dire, on ne peut pas non plus consommer la halakha, c'est-à-dire savoir comment appliquer la halakha si on n'a pas le ta'am. Des fois, pour comprendre exactement ce que la halakha me dit, j'ai impérativement besoin de savoir comment on y est arrivé, parce que ça va donner des nuances, et aussi ensuite comment on le chante, comment on le dit, ça aussi, ça va donner des nuances dans l'application de la halakha. D'autre part, ça veut donc dire ici, s'il est terminé, tu dois aussi veiller à ce que ce soit compréhensible. Il ne s'agit pas de donner des lois et en disant simplement il n'y a rien à comprendre, ça, il faut appliquer. Non. On a déjà dit plusieurs fois, l'application de la Torah, de façon idéale, si vous voulez, la halakha, elle doit apparaître pour chacun comme l'aboutissement de tout un processus d'élaboration de cette halakha à partir de la Torah. C'est une première chose. Ensuite, il y a un diouk que font Chazal, lifneihem, velo lifnei akum. Donc, tu donneras ces halakhot au Bnei Israël et pas aux idolâtres. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que, bon, c'est évident qu'on ne va pas leur donner. On verra après qu'est-ce que c'est que les halakhot pour les goïms, mais aussi ils ont des halakhot. Mais ici, ce qu'on veut nous dire ici, c'est que il peut exister des situations où on sait que l'application de la loi du pays, la loi, le code civil ou le code pénal, donne le même résultat que l'application de la Torah. Je le sais, de façon certaine. Alors on pourrait dire, peu importe que j'aille me faire juger par un tribunal civil ou un tribunal rabbinique, puisque de toute manière, le résultat sera le même. Alors c'est ici qu'on vient dire, tu n'as pas le droit d'aller te faire juger par un tribunal civil, parce que quand on va se faire juger par un tribunal civil, alors il n'y a pas simplement la loi spécifique, c'est que la loi s'inscrit dans un système de loi. Ce système de loi, il a des principes qui sont pas du tout les principes de la Torah. Et il y avait des situations où même tout le système de loi était basé sur l'idole en question ou sur un ensemble d'idoles. Alors même s'il n'y a pas vraiment d'idole, mais il y a aussi des principes qui n'ont rien à voir avec la Torah. Et donc même si localement, c'est-à-dire dans une situation bien précise, ça donne le même résultat, mais il s'agit de ne pas aller reconnaître l'autorité, les principes qui sont à l'œuvre dans la loi civile, enfin, la loi nationale, quoi, du pays. Alors, bien sûr, il va y avoir des problèmes. Il y a un principe qui s'appelle Dina de Malkuta Dina. Ça veut dire, sur certains points, la Torah dit qu'on doit appliquer la loi du pays, sur certains points. C'est la situation, elle a évolué au cours des siècles. Il y a encore aujourd'hui, je crois encore que c'est comme ça au Maroc. Jusqu'à Napoléon, les Juifs avaient une autonomie juridique. Ça veut dire que les Juifs avaient le droit de se faire juger par un tribunal juif. Et dans certains pays, la loi dite pour les Juifs par un tribunal rabbinique avait force de loi, c'est-à-dire que le cas échéant, le tribunal pouvait mobiliser les forces, la police, etc., du pays pour faire respecter la loi juive, la loi rabbinique. Je crois que c'était, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était le cas il n'y a pas si longtemps, au Maroc en tout cas. Et on avait ça avant Napoléon. Avec Napoléon, c'est une des choses qui ont été perdues avec Napoléon. Les Juifs ont obtenu certains droits, etc., mais ils ont perdu l'autonomie juridique. Ce qui en soi est une chose assez importante. D'ailleurs, ça se voit, par exemple, quand vous regardez les livres de Shelot Utshuvot, Responsa, c'est-à-dire les livres qui rapportent l'ensemble, une partie des décisions rabbiniques prises par certains rabbins. Les rabbins qui sont assez importants, ils ont des questions qui leur sont posées du monde entier, et ils se rédigent souvent, c'est publié ensuite. Alors, si vous regardez les ouvrages qui datent d'avant Napoléon, vous verrez que les questions qui sont posées sont majoritairement des questions de l'ordre du Roshen Mishpat, c'est-à-dire des questions concernant le business, quoi, concernant le fonction. Et de façon beaucoup moins importante, les questions de kashrut ou des questions. Alors que depuis lors, on est en train de changer un petit peu maintenant, mais entre-temps, il y avait énormément de questions sur des problèmes rituels, etc., et très peu de questions sur ce qu'on appelle Roshen Mishpat, c'est la partie du Shulchan Aruch qui traite du problème des problèmes de voisinage, des problèmes de vol, des problèmes de contrat, etc. Toutes ces questions-là étaient très peu traitées. Maintenant, ça revient. Il y a beaucoup de Shelot Utshuvot. Et à part ça, il y a effectivement les tribunaux rabbiniques en Israël qui traitent de ces questions-là. Ce ne sont pas les tribunaux officiels. C'est-à-dire qu'en Israël, on n'applique pas la loi de la Torah. Les tribunaux appliquent une loi qui est, je ne sais pas quoi, turco, anglo, franco, je ne sais pas quoi, etc., des mélanges avec de ci, de là, des lois juives, en fait.
En Pologne, Et même Dinei Nefashot, ils pouvaient juger. Il y avait ce qu'on appelle pas tous, moi je n'ai pas vu partout, mais certains synagogues, ils avaient comme quelque chose qui s'appelle Kune, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est Tzinok. Comment on dit en français? Et on pouvait enfermer. Il y avait le pouvoir de Ikoufalie, qui est un pouvoir très très grand.
Ça, en Espagne, avant l'expulsion, les Juifs ils condamnaient à mort. Hein. Les tribunaux juifs condamnaient les gens à mort, le cachet. Ils avaient souvent des méthodes très contestables, si vous voulez, en tout cas pour nous aujourd'hui. Et quand j'étais jeune, j'avais vu une fois un bouquin d'un juriste qui s'appelle Américo Castro, quelque chose comme ça, qui disait que les pratiques de l'Inquisition, la torture de l'Inquisition, elles ont été inspirées par les tribunaux juifs. Ils ont pris modèle sur certaines choses que faisaient les tribunaux juifs. Bon, c'est pas, on n'est pas très fiers, mais... Bien, ça c'est ce premier verset. Alors, il y a un Ramban sur ce verset qui remarque justement que si on regarde la paracha de la semaine dernière et celle-ci. Dans la paracha de la semaine dernière, on avait les 10 paroles. Et avant les 10 paroles, il y avait les conseils de Yitro à Moshe Rabbeinu pour organiser les tribunaux. Il lui avait dit, tu dois faire des tribunaux qui jugent une dizaine de personnes, une cinquantaine, une centaine, etc. Et des questions et des tribunaux qui jugent les questions de plus en plus difficiles jusqu'aux questions très difficiles qui, elles, reviendront chez toi, Moshe. Donc, si vous voulez, il y a avant les Aseret HaDibrot, vous avez le problème Sanhedrin, quoi, si vous voulez, espèce de l'organisation des tribunaux. Et puis, vous avez les Aseret HaDibrot. Et puis, maintenant, avec la parasha de Mishpatim, vous avez les Dinim. Ça veut dire que les Aseret HaDibrot sont enveloppés, en quelque sorte, entourés de Mishpatim, entourés des lois concernant les dinim, en fait. Donc le Ramban, il dit qui ratza le'akdim la'em mishpatim. En fait, Hachem voulait, avant de leur donner la Torah, il voulait qu'ils aient les mishpatim, on dit atem reitem, et voulait dire que en réalité, dans les psukim on trouve que les Aseret HaDibrot, en fait, elles étaient déjà dites sous une forme allusive ou peut-être moins explicite. Par exemple, Hachem dit, Atem, il a dit dans la paracha la semaine dernière, vous avez vu que je vous ai parlé du ciel, etc. Et donc là, le Ramban dit, ça c'est Keneged Anochi. C'est-à-dire Anochi Hachem Elokecha, voilà. C'est dit de cette manière-là. Lota Asuniti, vous vous souvenez, la deuxième loi qui est dite juste après, donc là, c'est Talibrot, c'est de dire que vous n'avez pas le droit de faire les Krouvim qui étaient sur le Aaron HaKodesh. Il y en a deux, vous n'avez pas le droit d'en faire plus que deux. Ils sont en or, vous n'avez pas le droit de les faire en argent, etc. Donc ça veut dire Lota Asun Iti, c'est écrit vous ne ferez pas Iti, avec moi, à côté de moi. Ça c'est Loyelcha, Elohim Acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est la deuxième des 10 paroles. Donc ça règle le problème du rapport avec l'idolâtrie, en quelque sorte. C'est-à-dire quand Hachem dit, c'est de dire de deux manières, je suis Hachem, tu n'auras pas d'autre Dieu, ça c'est la façon de présenter dans les Aseret HaDibrot les lois de la Avodah Zara, les lois de l'idolâtrie. Ensuite, Ve'ele HaMishpatim, alors là il dit, je trouve très intéressant, le Ve'ele HaMishpatim, ça correspond à l'Otachmot, ça correspond à la dernière des 10 paroles, qui est donc de « tu ne convoiteras pas ni la maison, ni la femme, ni les biens, etc. » de ton prochain. Donc, tous les dinim, une grande partie des dinim en tout cas, c'est que Ramban dit « qu'im lo yada adam, mishpat habayit, asade, ou shar hamamon, az yachshov shehu shelo, vichmadehu, vikacheu l'atzmo. » C'est-à-dire que si quelqu'un ne sait pas vraiment quelle est la loi concernant la loi de la propriété, comment on devient propriétaire d'une maison, d'un champ, comment est-ce que quelqu'un donne des kilouchin à une femme qui devient sa femme, etc. Eh bien, si quelqu'un n'a pas compris qu'il y a une notion de propriété, qu'il y a des propriétaires, il y a des gens qui ont des relations privilégiées, difficile de dire propriété dans les relations conjugales, mais dans le bayit ou dans le sadé ou dans les biens, etc. Alors, le Ramban dit, si quelqu'un n'a pas bien compris ça, ben, il va voir quelque chose, il en aura envie, ben, il va le prendre. J'ai envie, je prends. Pour cette raison, la Torah dit, « Tassim lifneihem » Mishpatim Yesharim, Yanigu Otam Benehem, tu dois leur donner, mettre devant eux des lois qui disent comment arriver à une droiture dans la conduite. Ces dinim viennent aider à ne pas convoiter les choses qui ne vous appartiennent pas. C'est-à-dire que le Ramban est un petit peu difficile à comprendre parce que si quelqu'un a appris les lois de la Shrita, par exemple, il sait quelle bête est tréfa, s'il y a une bête qui a un défaut, une maladie qui ferait qu'elle ne va pas passer l'année, quoi. Alors ça s'appelle tréfa. Alors, il se peut très bien que devant lui, on lui amène, une volaille dans laquelle il y a un clou qui est planté. Et il ne saura pas avec ça. Il ne saura toujours pas est-ce que la bête est devenue très fin, suivant où est le clou, où il est planté, à quelle profondeur, etc., qu'est-ce qui est touché. Est-ce que la bête est devenue très fin, ou est-ce qu'elle peut être consommée quand même? On peut faire la shrita. Elle a consommé. Donc, en fait, pourquoi quelqu'un, dans Ramban, il dit que pourquoi quelqu'un qui, un homme se casserait obligatoirement la figure dans les problèmes de prochaine mishpat, des relations, de la gestion des relations interhumaines, en fait. Pourquoi quelqu'un prendrait-il un objet qui n'est pas à lui, un objet avec lequel il n'a aucune relation. Je vois quelque chose, monsieur, je vais le prendre. Le Ramban a l'air de dire que c'est comme ça que les gens vont se comporter, en fait. Le Ravolvé racontait qu'un jour, il est allé... Il avait un cours chez son maître, Rabbi Rucham Leibovitch, le Mashgiach de Mir. Il est arrivé un tout petit peu en avance et Rabbi Rucham était assis à la table et devant lui, il y avait une montre et la montre était arrêtée. Et bon, lui, il a raconté qu'il a pris la montre, il voyait bien qu'elle était arrêtée, et en fait, ce qu'il voulait regarder, pourquoi elle est arrêtée, il l'a prise en main, etc. Et le Rav Yerucham lui a dit, la montre est arrêtée. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il veut? J'ai bien vu qu'elle était arrêtée, c'est pour ça que je l'ai pris. Et voyant que je ne réagis pas, il a répété, la montre est arrêtée. Alors j'ai compris, dit-il, qu'il ne voulait pas que je la prenne en main. L'idée étant que ce n'est pas parce que tu entres chez quelqu'un, il y a une montre qui est arrêtée, tu n'as aucun droit de... Tu n'as pas demandé de t'occuper de la montre. Pourquoi tu prends la montre? C'est quoi ce mouvement de prendre la montre dans la main? Rabbi Yochanan pensait que ce geste-là, c'est un geste de vol. Après, tu ne vas pas voler obligatoirement, mais tu prends dans ta main quelque chose qui ne t'appartient pas, personne ne t'a demandé de le prendre, et ça appartient à l'autre, visiblement. C'est évident qu'on n'a pas l'intention de voler à ce moment-là. Mais d'où vient ce mouvement qui me permet de prendre quelque chose qui est à l'autre, parce que la montre elle est arrêtée, alors? D'accord, on a le droit d'avoir une montre arrêtée chez soi. Et après, le Rav Volbel lui-même, il est devenu absolument intransigeant sur ces questions-là. Il y a un de ses élèves qui raconte qu'il l'a vraiment éduqué avec l'interdiction de toucher quoi que ce soit chez quelqu'un sans que la personne t'ait dit de la toucher. Tu n'as pas le droit, c'est... On n'a pas à toucher. C'est vrai que très souvent, on peut prendre quelque chose en main parce qu'on est intrigué ou parce qu'on est impressionné par la beauté de la chose ou on bien voudrait voir comment ça fonctionne. Il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on peut peut-être prendre quelque chose en main qui n'est pas à soi. Bon, on voit que Rabbi Yochanan et Rav Volbel étaient extrêmement sévère sur cette question-là. Quelque part, ça va un peu dans le style du Ramban. Le Ramban, ici, il a l'air de dire que c'est si tu ne connais pas vraiment le Shulchan Aruch, tu vas voler, quoi. Alors même, d'une certaine manière, il veut dire que ce geste-là est quasiment le geste d'un voleur. Parce que comment tu vas expliquer ce geste? De quel droit tu fais ce geste vers quelque chose et saisir quelque chose qui n'est pas à toi. On ne t'a pas demandé d'essayer de réparer, de voir comment ça se passe. Tu peux demander, est-ce que je peux voir ça de plus près? Bon, mais naturellement, on le prend en vain. Bon, ah, c'est super, très beau. Ensuite, on le repose. Mais on n'a pas le droit de le faire. Ok. Alors, le Ramban continue et il dit aussi Vechen amru b'midrash rabba kol ha-Torah kula tluya b'mishpat. Lachen natan ha-Kadosh Baruch Hu dinim achar aseret ha-dibrot. Pourquoi Hachem a mis cette paracha de Mishpatim juste après les Aseret HaDibrot? Parce que la Torah, dit Ramban, elle dépend du Mishpat, elle dépend justement des Mishpatim, des Dinim. Donc c'est pour ça que la Torah est enveloppée en quelque sorte par le problème de Dinim avant et après. La Torah, ça veut dire ici les Aseret HaDibrot. Ensuite vient le problème du Eved Ivri. De l'esclave juif. encore une fois, le Ramban se demande, enfin, il réagit au fait que la première loi qui est énoncée dans ces Mishpatim, c'est la loi du Eved Ivri. Alors, Eved Ivri, ça veut dire un esclave hébreu. Donc, juste un tout petit rappel, comment est-ce qu'un homme peut devenir esclave, un juif peut devenir esclave? De deux manières. Ou bien c'est quelqu'un qui a volé et qui ne peut pas rembourser. Alors, il est vendu comme esclave, j'ai tout de suite expliqué ce que c'est, pour une durée de 6 ans, la 7e année, il sort libre. Alors, il faut savoir que quand quelqu'un est vendu comme esclave, s'il a une famille, toute la famille est prise en charge par le maître de l'esclave en question, mais elle ne travaille pas, cette famille. Donc, ça veut dire que quand on achète un esclave, parce que quand quelqu'un est vendu comme esclave, il faut trouver quelqu'un qui veuille l'acheter. Parce que ça coûte cher d'acheter un esclave. Pour cette raison-là en particulier. C'est vrai qu'il va travailler. Mais lui, il travaille. Mais entre-temps, il faut entretenir toute la famille. Toute la famille est nourrie, logée, blanchie. Elle ne travaille pas. Donc, si vous voulez, après, le statut de l'esclave, du point de vue du travail, c'est un travail qui est très agréable. On peut pas lui faire de grosses choses. Puis, on n'a pas le droit non plus de lui faire sentir qu'il est esclave. Toujours avec ces petits exemples-là, mais qui disent la vérité, qui est que si vous n'avez qu'un seul oreiller, il faut le donner à l'esclave parce que on ne peut pas lui imposer de vous voir, vous, dormir sur un oreiller et lui, il dort à plat, il dort sans oreiller. On ne peut pas lui imposer ça, ça ne fait pas partie des choses qu'on peut imposer à un esclave. Alors, c'est tout est à l'avenant, ça veut dire, voilà, et si vous avez un très bon manteau, il faut qu'il ait un très bon manteau parce que sinon, c'est ce manteau-là qu'il faut le donner à lui. Donc, c'est insupportable. C'est juste, tout ce qu'il a, c'est qu'il n'est pas maître de son travail. La grande différence entre quelqu'un qui est esclave et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est que le matin, quelqu'un qui n'est pas esclave, il peut dire, ben, aujourd'hui, je vais tondre, on va prendre quelque chose que tout le monde connaît tous les jours. Aujourd'hui, je vais tondre mes agneaux. OK? Bon, je peux le faire. Mais si l'esclave le matin, dans sa tête, il dit maintenant je vais tondre, et puis demain, et puis après je vais aller planter mes carottes. Non, le maître dit non, tu plantes d'abord les carottes et après tu vas tondre. À part ça, il y a l'autre problème, qui est un vrai problème, c'est que, alors, je vous ai dit, ça c'est la loi d'un esclave hébreu. A priori, la Torah, elle ne veut pas que les Israël soit esclave, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un qui n'a pas envie de, il n'a pas envie de se confronter à la vie, quoi, en fait. Et il décide de se vendre comme esclave. On peut le faire. Encore une fois, faut-il qu'il trouve quelqu'un qui l'achète. Mais disons, s'il trouve quelqu'un, il peut se vendre lui-même comme esclave. Et à ce moment-là, il y aura deux situations différentes dans la chose que je vais préciser. Il existe une autre sorte d'esclave qu'on appelle Eved Knaani. Ça s'appelle Eved Cananéen, mais ça n'a rien à voir obligatoirement avec un Cananéen. Cananéen, ça veut dire c'est un esclave qui n'est pas juif, en fait. Alors, comment est-ce qu'un esclave non juif arrive? Ou bien il a été acheté au marché aux esclaves, il allait en Arabie Saoudite, il a acheté un esclave, ou bien il y avait eu, quand il y avait des guerres, les prisonniers de guerre étaient souvent transformés en esclaves. En disant que, bon, durant la guerre, Celui qui a gagné la guerre, il dit, j'aurais pu te tuer, maintenant je te laisse la vie, mais tu travailles pour moi. Alors, quand on a un esclave Knaani, là, ça peut être un homme ou une femme. Pour un Eved d'Ivry, il y a une notion d'esclavage pour les femmes, mais seulement jusqu'à 12 ans. Une fille qui a plus de 12 ans, elle ne peut pas être esclave. Et en général, alors, comme elle est mineure, elle n'a pas pu être vendue parce qu'elle a volé. Mais c'est quelqu'un qui... comment est-ce qu'elle peut arriver à être esclave? C'est son père qui l'a vendue comme esclave. Mais c'est en fait, cet esclavage, ce statut-là, c'est une espèce de tentative de mariage. C'est-à-dire, en général, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent du tout, qui n'a peut-être même pas beaucoup d'argent pour nourrir ses propres enfants. Et il n'a pas non plus de dot, etc., pour sa fille. Donc, il la vend comme esclave à quelqu'un qui, par cet achat, il a la possibilité d'épouser, en bonne et due forme, hein, d'épouser l'esclave en question ou de la proposer comme épouse à son fils. Maintenant, si jamais il ne le fait pas, quand elle atteint ses 12 ans, elle retourne chez son père. Enfin, elle retourne. Elle retourne peut-être dans la maison de son père, mais elle n'est plus sous la juridiction de son père, puisqu'elle est trop. Elle est plus mineure, et donc le père n'a plus la possibilité de la vendre. Donc, c'est tout à fait différent. Alors, chez un esclave qu'on appelle cananéen, il peut y avoir des hommes ou des femmes. Ce qui peut se passer, et c'est ça, à mon avis, le problème, si on veut, de l'esclave hébreu, c'est que si lui, il est marié, s'il a une femme, alors le maître peut donner à cet esclave une femme, une esclave cananéenne avec laquelle il pourrait avoir des enfants qui seront des esclaves qui appartiendront évidemment au propriétaire de l'esclave cananéenne. Et là, il va y avoir les fameux problèmes, là, quand on en a déjà parlé, c'est qu'il y a une possibilité, lorsque la septième année arrive pour l'esclave hébreu, il peut dire, je ne veux pas retourner à la vie libre. Je veux rester, j'aime mon maître, j'aime ma femme, etc. Je veux rester esclave. Alors, on essaie de le dissuader, on lui explique que les Bnei Israël, ils sont sortis de l'esclavage et que c'est pas pour redevenir esclave. Mais si vraiment il est irréductible, alors on le marque dans le cartilage de l'oreille, là, le poinçon, et il va rester esclave jusqu'au Yovel, jusqu'au jubilé. C'est-à-dire que tous les 50 ans, il y a un jubilé. À ce moment-là, tous les esclaves sont libérés. Et alors là, il y a un gros problème. Alors, cette possibilité-là, elle n'existe que si l'esclave hébreu est marié. En d'autres termes, si on veut, on peut essayer d'expliquer ça en disant que la Torah, elle ne veut pas que l'esclave hébreu fonde une famille, enfin, avec une esclave cananéenne. Donc, elle ne lui permet que s'il est déjà marié. Il a une épouse déjà, donc a priori, même si effectivement il peut avoir des rapports avec l'esclave cananéenne, c'est pas lui qui le décide. Enfin, lui, il peut décider de pas le faire, mais c'est son maître qui décide de le permettre ou pas. Et seulement le problème, c'est que quand il dit Je ne veux pas retourner à la vie libre. J'aime mon maître et j'aime ma femme. On est obligé de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire, tu aimes ta femme? Mais si tu es libéré, ta femme, elle part avec toi. Par conséquent, quand il parle, et il parle de ses enfants et de sa femme, quand il parle de sa femme et de ses enfants, c'est de l'esclave cananéenne qui parle. Il dit, j'aime l'esclave cananéenne, j'aime les enfants que j'ai eus avec elle. Et c'est pour ça que je veux pas sortir libre. Bon, alors, le problème, ça doit être un problème de Shalom Bayit après. Parce que je ne sais pas comment son épouse, elle entend ce discours de son mari qui décide qu'il va rester esclave parce qu'il aime l'esclave cananéenne qu'on lui a donné pour avoir des enfants. Bon, ça, c'est, à mon avis, la chose la plus difficile à supporter, quoi. Bon, c'est pas obligatoire, bien sûr. S'il a des relations normales avec sa femme, il ne devrait pas dire mais je veux continuer de vivre parce que je l'aime. En plus, c'est pas c'est, bon. Maintenant, qu'est-ce que veut dire ici je l'aime, etc. Mais il aime aussi ses enfants là, en l'occurrence. Il a peut-être d'autres enfants avec sa femme. Et là, maintenant, il a eu des petits enfants, des petits esclaves qui sont pas ses enfants d'ailleurs. C'est les enfants de l'esclave, donc les enfants du maître. Donc ça, c'est le problème. Et il y a encore autre chose, j'ai oublié de dire quelque chose. Ah oui, j'ai oublié de dire que quand on achète un esclave cananéen, ou quand on en obtient un par la guerre, on est obligé de le convertir. C'est le seul cas de conversion forcée. On est obligé de le convertir à la Torah. Et s'il refuse, si on n'arrive pas à le contraindre, on est obligé de le revendre. On ne peut pas garder chez soi un esclave qui ne respecte pas les lois de la Torah. Il sera astreint aux lois de la Torah à peu près au même niveau que les femmes. C'est-à-dire qu'il sera dispensé des mitzvot assez chez Asman Grama, est lié au temps, puisque lui, son temps ne lui appartient pas. Donc, si on dit que les femmes sont dispensées de ces mitzvot-là parce qu'elles n'ont pas besoin qu'on leur marque le temps de l'extérieur, puisque le corps lui-même marque le temps, lui, l'esclave, c'est marqué de l'extérieur, mais c'est son maître qui lui marque son temps. Donc, il n'a pas besoin de ces mitzvot-là. Voilà. Et il est en fait, c'est un juif qui est esclave, donc il est astreint au mitzvot, et si on n'a pas le droit de le libérer. Mais si jamais il venait à se libérer, il y a des cas où on n'a pas le droit en général, mais dans les cas spéciaux, on a le droit. Mais quand on le libère, il est juif de plein pied. Il n'a besoin de rien du tout. Donc c'est un peu spécial comme situation. Le grand exemple de celui de cet esclave qui s'est libéré, c'est Hérode. Hérode, c'était justement un prisonnier de guerre. Et il était à l'époque des Hashmonaïm. Et lui, il s'est révolté, il a massacré tous les Hashmonaïm de la famille. Et il a pris le pouvoir. Hérode, c'est un esclave qui s'est libéré tout seul. Mais en réalité, il était donc juridiquement, il était juif. Halakhiquement, il était parvenu en juif. Alors, sur la paracha du Eved Ivri, la question qu'on avait posée avant au nom du Ramban, c'est comment se fait-il que ce soit la première loi mentionnée? Déjà que la notion d'esclave juif existe, c'est déjà un peu surprenant. Parce que les juifs, ils sortent de l'esclavage, on est quand même étonné qu'ils aient la possibilité d'avoir des esclaves. Ce serait plutôt attendu que la Torah, si elle parle de ça, qu'elle dise qu'on n'avait pas le droit d'avoir des esclaves. Mais je crois que la façon dont les halakhot qui concernent l'esclave sont telles que ça n'a tellement rien à voir avec l'esclavage égyptien, ni rien à voir avec la notion d'esclavage au sens grec du terme, etc. Il est bien évident que même par rapport à un esclave cananéen, le maître n'a pas de droit de vie ou de mort. Bien au contraire, si le maître, par exemple, accidentellement il crève un œil ou il casse une dent de son esclave cananéen, l'esclave cananéen est libre. Il est obligé de le libérer. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de pourquoi on parle de ça? Alors le Ramban dit quelque chose d'un peu surprenant. Il dit pourquoi c'est ça? Parce que Yesh le Shiluach a Eved Bashana Shvi'it Zecher Leitziat Mitzrayim. L'existence d'une condition d'esclave est intéressante parce que on parle de la sortie de l'esclavage. Un évêque hébreu, c'est quelqu'un qui est esclave pour un temps limité. La septième année, il sort de son état d'esclavage. Donc, c'est tout à fait différent. Le maître ne peut pas le garder. Des fois, il peut essayer de s'imposer à son maître. Comme je vous ai dit, il peut dire, moi, je veux rester, etc. Mais le maître ne peut pas lui dire, je ne te laisse pas partir. Et donc, il dit, ça ressemble à la sortie d'Égypte. Quelque part, l'esclave, il fait... Dans l'hypothèse où effectivement il le vit de la bonne manière, quand il est libéré, il fait une espèce d'expérience du type sortie d'Égypte. C'est une première chose, dit Ramban. Et encore autre chose, il y a aussi dans cette sortie de la septième année, bon, ça fait référence au chiffre 7 de Maaseh Bereshit, au Shabbat. Donc, cette septième année, qui est une espèce de Shabbat par rapport au travail qu'il faisait pour son maître, il cesse de travailler pour son maître. Donc, c'est comme une espèce de Shabbat. Donc, quelque part, il a l'air de présenter l'esclavage à cet endroit-là, en particulier, comme étant quelque chose d'important parce que ça rappelle la sortie d'Égypte. C'est comme si on disait que l'esclavage, essentiellement, il est là pour en sortir. Pour Ramban, c'est ça, l'expérience intéressante dans l'esclavage, c'est la sortie d'Égypte. Si on réfléchit, on retrouve une idée dont on a déjà souvent parlé ici. Je vous ai souvent dit que, ça c'était dans le cadre de l'explication du veau d'or, que le seul personnage dont on peut dire qu'il nous a fait sortir d'Égypte, à part Moshe Rabbeinu, c'est Yosef. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il nous a fait descendre en Égypte. C'est lui qui a dit à Yaakov, descends, viens en Égypte, viens toute la famille, etc. Alors, j'ai toujours essayé d'expliquer que le veau d'or, le veau, c'est un taureau. Le taureau, c'est l'emblème de Yosef. Et c'est pour ça que c'est avec cet emblème-là qu'ils ont pu lui raconter, c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. Parce qu'il y a là quelque chose de vrai. C'est-à-dire, exactement comme ici, d'après le Ramban, la descente en Égypte, c'est le commencement de la sortie d'Égypte, si vous voulez. La descente en Égypte, suivie de la sortie d'Égypte, c'est pas qu'il y a eu un accident de l'histoire qui a fait qu'on est devenu esclave en Égypte et qu'il a fallu réparer cet accident en nous en faisant sortir. Toute la promesse, toute l'histoire de l'esclavage, etc., c'est, je vous rappelle, c'est le contenu de la promesse qu'Hachem a faite à Abraham Avinu au moment de Brit Ben Abtarim, au moment de l'alliance entre les morceaux. Il lui avait dit, ta descendance, elle sera esclave, etc. Donc, c'est cette promesse d'Hachem qui se termine par, mais à la fin, ils sortiront avec un grand butin. Bon, ça veut dire qu'en fait, toute l'histoire de l'esclavage, la descente en Égypte, l'esclavage, c'est le commencement de la sortie, c'est au service de la sortie. Et c'est pour ça qu'on peut considérer que Yosef est celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Il a permis la sortie d'Égypte. Comment ? Ben, en nous amenant en Égypte d'abord. Encore une fois, pour ne pas voir l'esclavage en Égypte comme étant un accident de l'histoire qu'il va falloir réparer. Ce n'est pas du tout comme ça. Il fallait descendre en Égypte parce que l'essentiel, c'était d'en sortir. Et en sortir, c'est une naissance avec tout ce qu'on a déjà raconté souvent sur la sortie d'Égypte, la naissance du peuple juif, hein, pour sortir de l'Égypte. Maintenant, on va au passouk numéro Yudbet 12 dans ce chapitre 21. Vous avancez un peu. On commence à parler des dommages causés par un homme. Dans le parashat Mishpatim, on va voir les dommages causés par l'homme. Puis ensuite, on aura les dommages causés par les biens de l'homme. C'est son taureau qui va endommager, etc. Donc, il y a des grandes familles de dinim concernés. Donc ici, on est maintenant à ce verset Yudbet qui dit « Make ish vamet mot yumat » Celui qui frappe un homme et que le frappé meurt, mot yumat, c'est-à-dire il mourra avec une redondance mot yumat. Mourir, il mourra en quelque sorte. Alors on voit ici que la Torah, elle accorde une très grande importance, bien sûr, c'est-à-dire elle est très, très sévère par rapport au meurtre. On sait que quand on trouve un cadavre, on trouve quelqu'un qui a été tué, il y a toute la procédure de Egla Rufa, vous vous souvenez, de la génisse dont on doit briser la nuque, etc. Et il doit y avoir quelqu'un doit prendre en charge, se sentir responsable au sens de répondre, pas dire que c'est ma faute, mais pas coupable, mais responsable. Donc il y a toute une procédure dans laquelle il y a le Sanhédrin d'une des villes, la ville la plus proche, qui va venir et les gens vont dire, les Dayanim vont dire, « Yadeinu lo shafru et adam hazé. » Nos mains n'ont pas versé ce sang. D'énormes chumrot dans le cadre d'un meurtre. On pourrait dire, bon, il y a eu un meurtre, ben c'est, voilà, on n'a pas trouvé l'assassin, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, il faut faire quelque chose. Si on ne respecte pas la Torah, hein, alors la retsicha, même le meurtre, deviendra banal, efker. Rav Volmer racontait que à côté de la ville de Kelm, il y a un goy qui a été tué par la foudre. Et l'altar de Kelm, là-bas, au Shushiva, il a dit à ses élèves que celui qui n'est pas bouleversé par cette mort, c'est un siman que ça ne l'aurait pas tellement dérangé de tuer lui-même cette personne. Souvent, les Baal et Moussa, ils avaient une façon d'exprimer les choses un peu très provocatrice. Et ça, il a dit sur la mort d'un non-juif. Les gens disaient, qu'est-ce que ça peut bien faire? Il y a un goy qui est mort en Pologne, en Lituanie, mort d'un goy, c'était... On voit que l'histoire de tuer quelqu'un, on a vu ce que les cathos ont fait aux Incas, aux Aztèques, etc. Et ce qu'ils ont fait par la suite aussi à tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. On a vu aussi, on voit encore aujourd'hui ce que font certains musulmans. C'est-à-dire que quelque part, dans ces religions, on envisage qu'on peut tuer quelqu'un. S'il n'est pas d'accord avec moi, si ce n'est pas mon frère, quelque sorte, je peux le tuer. C'est même une mitzvah de le tuer. La Torah, elle est extrêmement opposée à toute cette idée-là. On a bien vu que durant la Deuxième Guerre, ni les Américains, ni les Anglais n'avaient une bombe. Ils n'étaient pas prêts à larguer ne serait-ce qu'une bombe sur les rails des voies de chemin de fer qui menaient à Auschwitz. Toutes les explications qu'ils ont pu donner, ça ne change rien. En fait, ça ne les dérangeait pas tellement.
Comment on peut expliquer Milchemet Mitzvah, Milchemet Rechout?
Bon, alors ça, c'est effectivement Milchemet Rechout, ce n'est pas au titre de la religion. C'est pas que c'est bien, mais Rechout, ça veut dire, ou bien David Ameller, par exemple, il pensait que c'était nécessaire, qu'ils avaient besoin de faire ces guerres. Alors, ou bien c'était. Les guerres qu'ils ont faites, par exemple, contre les Plishtim, etc. Il y a un Gemara qui dit que les Bnei Israël sont venus un jour chez le roi David. Ils lui ont dit, écoute, on n'a pas à manger, là. Il faut que tu fasses quelque chose. Alors, il leur a dit, faites la guerre. Ça veut dire, c'est quoi, faites la guerre? Parce qu'il a. Chazal explique que la terre d'Israël, elle produisait assez de nourriture. Seulement, les Philistins, les Plishtim, faisaient des razzias. Ils envahissaient, ils piquaient toutes les récoltes et ils s'en allaient. Il restait le temps de consommer, etc. Donc, effectivement, après, les Bnei Israël n'avaient pas assez. Alors, David Ameller leur a dit, faites la guerre contre ces gens-là. Ces gens qui font des razzias, allez faire la guerre contre eux. Vous restez là et Hachem vous a envoyé de la nourriture et vous ne faites pas ce qu'il faut pour la défendre. Alors, je ne pense pas que ce soit les choses les plus positives, mais effectivement, David pensait que c'est comme ça qu'il fallait faire. Je pense que ça, c'est pas parce qu'ils sont pas de ma religion. S'ils avaient été même de la même religion, s'ils viennent et ils vous prennent la nourriture, il faut bien se défendre. L'idée qu'il faut pas se défendre, se laisser faire, bon, la résistance passive, etc., c'est peut-être pas non plus la seule solution, c'est peut-être pas la bonne solution, non. Ou c'était pas la bonne solution à l'époque. En tout cas, dans la Torah, on voit pas que c'est pas encouragé.
Donc, un jour, il faudrait qu'on consacre du temps pour comprendre les Hissoul, les Ameiklan. C'est des choses que j'ai pas encore assimilées.
Bien sûr que là-bas, hein. Alors, ça, c'est.
Parce que c'est, le langage est très, très violent.
Ici, il y a toujours la chose qu'on peut toujours opposer au Bnei Israël, c'est les guerres que Yoshua a faites pour éradiquer complètement les Cananéens qui étaient là. Alors, il faut peut-être préciser, c'est pas du tout. C'est sûr que c'est un grand problème. C'est un problème auquel il faut trouver une réponse. Maintenant, ce que j'ai compris, c'est la chose suivante. À cause des Meraglim, au lieu d'entrer tout de suite en Eretz Israël, on s'est baladé une quarantaine d'années dans le désert. Et on est entré ensuite. Et quand on est entré ensuite, on avait ces guerres à faire. Pourquoi ? Alors, c'est une drôle d'idée, c'est que, au fond, la Torah dit, vous n'êtes pas capable de vivre en Eretz Israël, de conquérir Eretz Israël, et de laisser vivre à côté de vous les Cananéens idolâtres. Pourquoi ? Vous n'êtes pas capable de résister à l'idolâtrie. Vous n'êtes pas capable. Avec tout ce qu'on a fait pour lutter contre l'idolâtrie, on est essayant d'éradiquer effectivement l'idolâtrie à ce moment-là, on voit bien que le Beth Amikdash a été détruit essentiellement pour des questions d'idolâtrie. Donc avec ce peu d'idolâtrie qu'il y avait, l'idolâtrie à l'extérieur et tout, les Bnei Israël se sont cassés la figure là-dessus. Donc c'est une faiblesse des Bnei Israël. Cette faiblesse des Bnei Israël, elle est due, d'une part, il y a une faiblesse intrinsèque des Bnei Israël, parce qu'il manque toute la génération qui avait vécu la sortie d'Égypte, le passage de la mer, etc., le Melchemet Amalek, le Matan Torah, etc. Ces gens-là, ces hommes qui, en tant qu'adultes, ont vécu ça, ils sont tous morts. Bon, ils sont morts à la suite de l'histoire des Meraglim et du Vaudor, d'ailleurs. Donc, le clan Israël, il était dans une position, dans une mauvaise position, en réalité. Et au contraire, pendant ces 40 ans, l'idolâtrie cananéenne, elle a fleuri. Elle s'est installée dans le pays. Ils sont devenus beaucoup plus forts. De 40 ans d'idolâtrie supplémentaire. Et donc on voit que la Torah, elle dit, vous n'êtes pas capable. Ce sera un moquage, ce sera... Si vous laissez ça, vous n'y arriverez pas. Et donc, c'est très négatif, c'est problématique par rapport à ce qu'on est en train de dire, que la Torah n'est pas pour éradiquer les peuples qui ne sont pas comme nous. Bon. Il faut aussi dire que les pratiques idolâtres étaient des pratiques assez terribles. que ce soit de sacrifier les enfants, etc. Bon, vous me direz, les Incas, ils brûlaient aussi toutes les années quelques jeunes gens pour demander au soleil de bien vouloir se lever. C'est aussi les pratiques un peu idolâtres. Bon, je n'ai pas de réponse qui soit absolument satisfaisante à ta question, mais voilà ce que je peux dire, c'est sur cette histoire des 40 ans. C'est ce que je sais, je ne sais pas dire plus, en fait. Mais bon, ça n'a jamais été une théorie qui est dite comme c'est simplement il faut tuer les gens qui ne sont pas comme nous, de façon générale. C'était momentané, c'était au moment de la conquête. Ça se passe aussi dans le cadre de la guerre. C'est une vraie guerre, donc bon, ça fait partie de ça fait partie, si vous voulez, de la presque de l'ADN du clan Israël. Le fait que Israël arrive dans l'histoire après tous les autres peuples, alors que les autres peuples sont déjà installés sur leur terre, sur des terres. Quand tu dis qu'il va y avoir un peuple, qui est ce peuple, il doit aller en Eretz Israël, mais l'Eretz Israël, c'est pas un désert. Donc, quelque part, Hachem nous a donné une terre, et il l'a donnée à Avraham Avinu. Nous, on a une tradition qui nous appartient. Mais entre-temps, elle avait été occupée. C'était pas une terre sans habitants qu'on allait donner à des habitants sans terre. Hein. C'était pas de ça qu'il s'agissait. Il y avait des habitants. Donc, l'idée même d'un peuple qui doit avoir une terre, qui a une terre qui lui appartient, mais où d'autres sont installés, c'est une drôle d'idée. C'est quand même surprenant, quand même, non? C'est pas, je sais pas si vous avez jamais réfléchi à ça, mais c'est quand même très surprenant comme situation. Et c'est pas que on avait une terre, mais elle ne nous plaisait pas. D'accord? Il n'y avait pas l'Ouganda, etc. Hachem a dit, vous allez en Eretz Israël. Vous allez. Eretz Knan, la Torah, elle appelle ça. La Torah, elle appelle cette terre Eretz Knan tout au long. C'est jamais marqué Eretz Israël dans la Torah. Marqué Eretz Knan, la terre de Knan. Les peuples là-bas, c'est les Cananéens. Hein. Et nous, on arrive, étrangers, mais possesseurs de la terre, oui, possesseurs. C'est Hachem qui nous l'a donné.
Mais si j'ai bien compris, d'après Rashi, n'est-ce pas, et Knan, il a conquis cette terre. Oui, mais il y avait Shem, Bever.
Nous sommes d'accord. Donc, alors que si on dit, si on nous dit, mais vous avez conquis cette terre, mais pas à vous, on peut leur dire, comme tu dis très justement, les lois de la guerre. Est-ce qu'on applique les lois de la guerre? Parce que si on n'applique pas les lois de la guerre, vous, Cananéens, vous n'êtes pas chez vous. La terre, elle appartenait aux Sémites. Et les Cananéens ont battu les Sémites et ils ont pris leur place. Ils sont installés là-bas. Dans le partage que les trois fils de Noach ont fait entre eux, Eretz Israël était dans le. Dans la part qui appartenait à Shem. Mais les Cananéens ont fait la guerre, ils ont gagné la guerre. Alors, s'ils nous disent pourquoi vous venez là, ben, on a fait la guerre. Donc, selon les lois de la guerre, on a gagné la guerre. Ah, c'est une guerre qui a fait des victimes, etc. Oui, c'est vrai. Mais vous aussi, vous avez fait des victimes quand vous avez fait la guerre. Donc, c'est aussi, ça, de ce point de vue-là, du point de vue des arguments des Cananéens, je ne suis pas très impressionné parce qu'on peut leur dire Il y a qu'Israël qui n'a pas le droit de faire la guerre, et de gagner la guerre. Tous les autres, ils font la guerre et gagnent la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Les Russes, ils ont fait la guerre, ils ont pris repris la Crimée. Ils ont pris la Crimée, ok. Writer. Face au point suivant de l'ordre du jour. Et s'ils veulent prendre une partie de l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une partie de l'Ukraine, tout. Qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un va leur faire quelque chose? On va aller faire la guerre pour Kiev ou Kharkov, je veux dire, personne ne va aller faire la guerre pour ça. Donc, il n'y a qu'Israël qui n'a pas le droit de faire la guerre. Ça, c'est une espèce d'un, ça, c'est un argument antisémite, s'il en est, je veux dire. Ben, plutôt, pourquoi on ne pourrait pas faire la guerre? C'est peut-être pas joli, c'est pas... Mais c'est ça les lois de la guerre, non? Alors le problème, c'est que la condition d'Israël, c'était tu ne peux exister que par la guerre. Tu n'auras de terre que par la guerre, puisque la terre que Hachem nous a donnée, elle est occupée par des gens qui ne sont pas des Canadiens, qui sont là, qui disent, mais nous, on est là depuis toujours. Oui, c'est vrai, il y a longtemps qu'ils étaient là. Ils sont là. Et vous avez fait la guerre, vous avez gagné. Ok, alors nous, on fait la guerre et c'est nous qui gagnons. On a gagné, alors on partait.
Mais là, disons, c'est pas le cas d'une nation. Les Sheva Meiknan, ils sont voués avec Nashim Vetaf et à l'extermination. D'après, c'est faire la guerre, c'est une chose, l'extermination, c'est une autre.
Oui, c'est juste qu'il y avait des pratiques qui... Des pratiques qu'on annonce, mais bon, c'est un peu spécial, mais qu'on pratiquera aussi avec le cas échéant avec Amalek. Sauf que comme on ne sait pas qui est Amalek, et que ce n'est pas un peuple bien précis, et que de l'Amalek, il y en a chez les Bnei Israël aussi. D'accord? Donc Amalek, c'est un peu spécial. Mais alors, à ce moment-là, les Cananéens, c'est vrai, on a tué hommes, femmes et enfants, ceux qui n'ont pas réussi à s'enfuir. Il y avait une volonté d'éradiquer effectivement les traces de l'idolâtrie cananéenne. Enfin, surtout, pas les traces tellement, mais la population idolâtre cananéenne. C'est complexe, je veux dire. Mais c'est sûr que je ne connais pas de réponse. Enfin, si, on peut considérer que on fait la guerre, vous avez fait la guerre, nous on fait la guerre, c'est tout. Alors maintenant, est-ce que dans cette guerre, on a été trop cruel, pourquoi on tue les enfants et tout? Bon, ben ça, aujourd'hui aussi, il y a ce problème de pourquoi on tue des enfants, mais bon, si les parents mettent des bombes sur les enfants et qu'ils les envoient faire exploser, qu'est-ce qu'on peut faire?
Mais Rav Bronstein, quand même, à l'origine de la guerre, il y a quand même de la part du clan d'Israël un défaut de Emouna, puisque c'est quand même bien la défaillance qu'il y a eu au niveau des Meraglim qui a conduit ensuite à devoir faire la guerre. Et qui plus est, la terre...
Vous avez raison, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. J'explique que ce n'est pas même fondamental au niveau... Ce n'est pas dans la Torah, si vous voulez, dans le projet initial. C'est dans le projet de Torah à partir de qui tient compte des 40 ans de pérégrination suite à la fois au Vaudor et aux explorateurs.
Et en plus, je voulais ajouter que la terre, on n'a pas le même rapport à la terre que celui que les goïms ont avec la
terre. Ça, c'est déjà une affaire quand tu as déjà la terre. Nous, on a un autre rapport à la terre. Ok, mais on peut... Bon, ben nous, on a un certain rapport à la terre. C'est-à-dire qu'en vérité... Nous, notre rapport à la Terre, c'est un rapport à la Terre qui a pour but de nous rappeler en permanence qu'on n'est pas les maîtres. C'est une Terre qui est à nous, mais on n'arrête pas de nous répéter tous les 7 ans, tous les 50 ans, avec les Ketch, Shikra, Pea, etc. Toutes ces... Voilà, c'est pas toi le maître, tu n'es pas le maître de la Terre. On a une Terre, donc on n'est pas le maître. Sans arrêt, la Torah nous le répète. Ben, c'est sûr. Mais par rapport aux Goïm, on est chez nous. Enfin, les Bnei Israël étaient chez eux, en fait, c'est ça. Donc, effectivement, il fallait faire la guerre pour avoir à manger. C'est ce que David leur a fait faire. Maintenant, il y a aussi des guerres que David a faites, semble-t-il, d'expansion. Je ne sais pas à quel titre, pourquoi on avait besoin de cette expansion. Bon, ils ont des... Même Milchemet Harashout, le roi ne pouvait pas faire une guerre sans demander son avis au Sanhedrin. L'Halakha est qu'il n'est pas souverain sur ce plan-là. Donc ça veut dire qu'il n'a pu le faire qu'avec l'accord du Sanhedrin. Donc en principe, ça veut dire qu'il y a l'accord d'Hachem, si on peut parler comme ça, pour faire ces guerres. Mais bon, ça ne les rend pas plus faciles à défendre, disons, contre les arguments extérieurs. Donc ici, on nous parle de Makéish ou Motiumat. Alors, si on tue effectivement quelqu'un, on sera condamné à mort. Il faut que je dise, mais il faut l'avoir présent. Quand la Torah, elle dit « mot yumat », elle dit « voilà, il va être mis à mort », il faut bien savoir, on ne met jamais personne à mort, enfin, on ne met pas un assassin à mort, ou des gens adultères, ou incestueux, etc. On ne les met pas à mort si, avant qu'ils transgressent, avant qu'ils fassent ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas été avertis par deux témoins. Deux témoins, deux hommes cachers qui n'ont aucun lien de parenté, ni entre eux, ni avec la victime, ni avec l'assassin, ni avec les fauteurs, de, etc., et que ceux qui ont fait l'assassin, disons, il a répondu, et ils ont été, il y a deux témoins qui ont averti celui qui avait allé faire la faute. Ils lui ont dit, c'est interdit de faire ce que tu fais, si tu le fais, tu transgresses tel et tel verset, et d'après certains, on va même lui dire exactement quelle peine de mort il encourt. Et lui, il répond, je sais très bien ce que je risque, et il faut qu'il agisse dans les secondes qui suivent. S'il agit quelques minutes après, on peut déjà plus le tuer parce qu'il peut dire « Ah, j'ai oublié l'avertissement ». Et sans avertissement, on peut pas le tuer. Vous comprenez ? Donc, quand on dit « il y a la peine de mort », oui, il y a la peine de mort. Mais quand vous mettez sur le papier toutes les conditions pour pouvoir appliquer la peine de mort, vous voyez que cette peine de mort, elle est totalement académique. Vous n'allez pas trouver facilement un assassin qui voudra bien dialoguer avec deux personnes qui le mettent en garde, etc. Et il y aura probablement, on peut imaginer un des cinglés, mais s'il est vraiment cinglé, je ne suis pas sûr qu'on doive le tuer. Donc pratiquement, ces peines de mort sont là, mais elles sont pratiquement académiques, et du coup, on doit se demander, mais dans ce cas-là, si elles sont académiques ou quasiment académiques, pourquoi est-ce qu'elles sont là? D'autant qu'il n'y a pas une peine de mort, il y en a quatre. Il y a une discussion, s'il y a une hiérarchie des peines de mort, il y a une discussion pour savoir quelle est la plus grave, enfin, oui, quelle est la plus sévère. Et c'est important de savoir que la peine de mort qu'on applique à un assassin, c'est pas la peine de mort la plus grave. Si vous lisez la suite des psukim, marquez ensuite bon, alors, ensuite, en même temps, on te dit qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un a tué par inadvertance, alors il y aura le problème des villes-refuges, etc. Mais un peu plus bas, au verset Tet Vav, c'est-à-dire au 15, c'est marqué Maké Aviv Veimo Motumat. Si on tue un homme ou une femme, hein, on est passible de mort. Si on frappe, sans peine de mort, sans mort qui s'ensuive, si on frappe le père ou la mère, on est passible de mort. Et si on maudit, on me calèle le père ou la mère, on est aussi passible de mort. Et la peine pour la malédiction, c'est la peine la plus grave. C'est-à-dire, on est plus sanctionné si on maudit son père et sa mère qu'on ne l'est si on les tue, si on les frappe, on les tue ou qu'on tue quelqu'un d'autre. Donc on voit très bien qu'il ne s'agit pas des transgressions au sens habituel du terme. Alors, il faut quand même préciser, ça vous le savez, que quand on parle de la gravité de maudire son père et sa mère, la malédiction, ça se fait obligatoirement avec le Shem Hashem, avec un nom divin. C'est-à-dire, en quelque sorte, avec la malédiction, on demande en quelque sorte à Hachem de réduire la personne qu'on est en train de maudire à une quantité négligeable. La chose klala, ça veut dire super cal, rendre la personne quantité négligeable. Mais on sait très bien qu'on ne peut pas le faire tout seul, donc on demande à Hachem de le faire. Donc c'est une partie de la gravité probablement vient de l'utilisation pour se faire du Shem Hashem, du nom divin. Pour tuer, on n'a pas besoin du nom divin. Pour frapper, on n'a pas besoin du nom divin. Et pour le Kalel, pour maudire, il faut le nom divin. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la profanation du nom divin à l'utiliser dans ce cadre-là. Puis ensuite, on entre dans toutes sortes de détails. Si quelqu'un a tué par inadvertance, ou plus exactement, deux personnes qui se battent, il y en a un qui veut porter un coup mortel à son adversaire, et il y a une femme qui prend le coup, c'est la balle perdue, quoi, si vous voulez. Et la femme, elle était enceinte, elle fait une fausse couche. Alors, il y aura deux situations. Ou bien elle meurt, ou elle ne meurt pas. Donc, si elle ne meurt pas, alors, celui qui a porté le coup, là, il va devoir payer un dédommagement pour la mort du fœtus, en fait, pour la fausse couche. Donc, il peut y avoir des situations où il y a mort et on paie. Là, en fait, c'est la mort de fœtus. Et il faut payer. Alors, c'est une espèce d'amende qu'on va lui mettre. Les peines, qu'elles soient d'argent, de coups ou de mort, ce n'est pas une vengeance. c'est une façon c'est plutôt des compensations. Tout en sachant que les compensations, elles ne réparent jamais. On compense. Et notre mode de compensation, c'est l'argent. Mais quel que soit le montant, on n'arrive jamais à vraiment compenser. Donc ça, c'est très important de ne pas s'imaginer que parce qu'on a payé, on a compensé. Vraiment. C'est une compensation, mais c'est la compensation qu'on peut faire. On ne sait pas comment faire autrement. Il n'y en a pas d'autre. Si on tuait la personne qui a tué, quand on tue la personne qui a tué, d'une certaine manière, ça ne rend pas la vie à la personne qui a été tuée. Donc là, il faudrait expliquer pourquoi on va le tuer. C'est un problème, effectivement. Donc, il y a des situations où on tue quelqu'un parce qu'on pense que sa conduite est une conduite qui ne lui permet pas de vivre ici. Il n'y a pas de vie possible dans ces conditions-là. Ah, voilà, on va s'arrêter là. Donc, deux choses. D'abord, je voudrais rappeler à vous toutes que ce serait sympa de bien renvoyer votre pouvoir pour l'Assemblée, le pouvoir, ou si c'est les pouvoirs, ou bien nous dire que vous serez sur Zoom, etc. Enfin, pour répondre à l'invitation qui vous a été envoyée, d'une part, et deuxièmement, je vous rappelais qu'il n'y aura pas de chiour dimanche soir.
C'est une nouvelle procuration, Rav, qu'il faut ?
Oui, c'est une double.
C'est un nouveau formulaire.
Vous avez reçu probablement.
Je vais regarder.
Oui, on l'a reçu.
On a envoyé par mail.
Moi, j'ai rien reçu à Bronstein. C'est dans ça, c'est.